Bonjour, bonjour à tous. À la une du journal d'Haïti et des Amériques, comment la rentrée scolaire pourra-t-elle se faire dans les zones sinistrées par le séisme? Plus de 250 écoles sont endommagées ou détruites dans le sud d'Haïti, mais le plan du gouvernement reste flou. Au Nicaragua, la répression de l'opposition s'intensifie à 3 mois des élections. La police a arrêté une 34e personnalité, l'avocat Roger Reyes. Le journal de l'Outre-mer est présenté par Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour Mayelle.
Et le confinement est prolongé en Guadeloupe.
Oui, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il n'y a pas eu de surprise. Comme en Martinique, le confinement est prolongé en Guadeloupe jusqu'au 19 septembre prochain. La rentrée, elle, ce sera le 13 septembre, mais principalement en distanciel, comme on dit.
Merci Benoît Ferrand. On vous retrouve dans quelques instants.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Nous sommes aujourd'hui avec le rédacteur en chef du Nouvelliste, Franz Duval, bonjour.
Bonjour Maëlle.
Et à la une aujourd'hui du Nouvelliste, le casse-tête autour de la rentrée des classes en Haïti. Comment faire en sorte que les enfants puissent continuer à apprendre dans les zones sinistrées après le séisme? Et quel est le plan du gouvernement?
3 départements géographiques ont été frappés fortement par le séisme du 14 août. Plus de 250 écoles soit abîmées totalement, soit ont des fissures et les locaux ne sont pas sûrs pour que les enfants pénètrent à nouveau dans ces locaux. Le gouvernement a annoncé hier par la voix du Premier ministre que la priorité, c'est de permettre une rentrée des classes pour tous en Haïti, ce qui signifie que les départements fortement frappés aussi auront leur rentrée des classes. Pour le moment, le Premier ministre a promis qu'on va déblayer les locaux qui se sont effondrés. Il a promis aussi un accompagnement pour les parents, mais il faut dire que le Premier ministre n'a pas déployé son plan. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quand les locaux seront libérés des décombres. On ne sait pas non plus comment on va aider les parents. Dans le passé, le gouvernement subventionnait les ouvrages scolaires, offrait le matériel, payait pour les uniformes. On suppose que c'est un plan de ce genre qui va être mis en place. Sauf que cette fois, il reste très peu de temps. La rentrée, c'est le 9 septembre. Et aussi, le gouvernement est réputé ne pas avoir d'argent. Pour le moment, le Premier ministre a de très bonnes intentions, mais concrètement, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va pouvoir faire.
Le gouvernement qui a décrété par ailleurs l'état d'urgence sanitaire dans les départements des NIP, du Sud, de la Grand'Anse et de l'Ouest, une décision qui doit, écrivez-vous dans votre éditorial, inciter à la vigilance. Pourquoi?
Il se trouve que depuis 2008, qu'Haïti a commencé à utiliser l'expression « état d'urgence », on l'a mis à toutes les sauces. Des fois, c'est pour des raisons sanitaires, des fois, c'est pour des raisons sécuritaires, des fois, c'est pour des raisons environnementales. À chaque fois, le gouvernement se sert de cette ouverture, de cette capacité pour tout simplement faire des dépenses sans passer par des appels d'offres réguliers, sans passer par les contrôles réguliers. Ça facilite les dépenses du gouvernement, ça facilite des achats au niveau du gouvernement. Mais souvent, on n'a pas de compte à rendre et souvent, ça finit en mini-scandale. Le gouvernement ne peut pas justifier tous les fonds. Les derniers états d'urgence qui ont été décrétés concernaient la sécurité, quand les gangs frappaient fort à Port-au-Prince, concernaient aussi la COVID. Pour le moment, on n'a toujours pas les rapports. D'autant plus que dans cet état d'urgence qui vient d'être décrété, on a remarqué que le département de l'Ouest, qui n'a pas été frappé par le séisme, fait partie aussi des zones qui sont sous état d'urgence. Alors le Nouvelliste, attention, qu'est-ce qu'on va faire avec l'état d'urgence dans l'Ouest?
Et autre sujet à la une du Nouvelliste, c'est la solidarité inter-haïtienne qui s'est mise en place après le séisme avec un exemple très concret.
Beaucoup d'exemples concrets à la une du Nouvelliste de ce matin. Il y en a un, c'est la Fondation Digicel qui offre 1 million de dollars pour réparer les écoles qui ont été affectées par le séisme. Mais en réalité, les gestes de solidarité haïtienne se multiplient. Les artistes haïtiens sont sur tous les fronts. Les institutions haïtiennes apportent ce qu'elles peuvent. Il faut dire aussi que ça peut passer par un don de sang, aussi bien que par un don de millions de dollars. Et les haïtiens sont sur le terrain. Les médecins haïtiens sont venus de toutes les facultés de médecine pour aller au CAI. Et tout le monde est sur la brèche depuis le 14 août. Et la solidarité haïtienne est à côté de la solidarité internationale. C'est la grande différence avec ce qui s'était passé en 2010, quand c'est Port-au-Prince qui avait été frappé. Les institutions haïtiennes ne pouvaient pas répondre. Mais cette fois, à côté de la solidarité internationale, il y a les Haïtiens qui font ce qu'ils peuvent.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Et nous restons en Haïti où les organisations internationales redoublent d'efforts pour transporter l'aide dans les villes sinistrées. Mais les habitants qui vivent dans les petits villages, dans les montagnes, sont toujours aux abois. Alcé Lavo habite à Tournade, une petite localité dans les hauteurs de la ville de Lasile, dans le département d'Enip. Et pour ce paysan, les zones rurales sont en train de subir la double peine. Elles enregistrent plus de destruction et n'ont toujours pas accès à l'aide.
J'ai entendu le responsable de la protection civile dire que la commune de Lasile est détruite à 30%. Ce n'est pas vrai. Lasile, ce n'est pas seulement le centre-ville. Ce sont tous les villages dans les alentours. Et chez nous, toutes les maisons se sont effondrées, toutes. Et le peu d'aide qui est arrivé au centre-ville n'a pas atteint tout le monde. J'aimerais que le gouvernement français nous vienne en aide, mais que cette aide soit distribuée d'une autre manière. Il faudrait faire du porte-à-porte, aller dans les villages ruraux et donc grimper dans les montagnes alentours qui sont inaccessibles en voiture ou en moto. Il faudrait y aller à pied et distribuer l'aide directement aux victimes. Parce que si vous passez par une autorité ou un tiers, les vraies victimes n'auront rien. Pourtant, nous avons besoin d'aide pour continuer à vivre. Nous sommes là, nous ne sommes pas morts.
Pour la vie, continuer, parce que nous là, si nous pas mourir.
Un témoignage recueilli par Stéphanie Schuller. La revue de presse ce jeudi avec vous, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Mayeul, bonjour à tous.
Et l'Afghanistan, qui domine les titres de la presse américaine?
Oui, le journal USA Today souhaite que les réfugiés afghans soient accueillis à bras ouverts par les États-Unis. Parmi tous les migrants étrangers désireux de venir dans le pays, les réfugiés afghans sont une catégorie à part, estime le journal, car des milliers d'Afghans ont aidé l'armée américaine. Ils ont protégé les soldats, ils ont travaillé entre autres comme traducteurs ou gardes de sécurité. Les États-Unis ont une dette à leur égard. Nous leur devons le meilleur accueil possible dans notre pays, explique le directeur d'une ONG américaine spécialisée dans la protection des réfugiés dans le journal USA Today.
Et l'accueil des réfugiés promis par le président Joe Biden ne fait pas l'unanimité au sein du parti républicain.
Oui, selon le New York Times, certains conservateurs ont accusé le président démocrate d'avoir abandonné ceux qui ont travaillé pour les Américains pendant 20 ans. Ces conservateurs traditionnels défendent l'accueil des Afghans qui ont fait des sacrifices pour les États-Unis, écrit le New York Times. Mais d'un autre côté, il y a les Trumpistes, les sympathisants de l'ex-président, qui accusent eux aussi Joe Biden, mais cette fois-ci pour laisser entrer les terroristes dans le pays, selon le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, cité par le New York Times. Cette division au sein du parti républicain est un nouveau test pour mesurer l'influence de Donald Trump sur les conservateurs. La nouvelle ligne de partage au sein du parti tourne effectivement autour des questions d'immigration, explique un expert du Grand Old Party dans le New York Times.
En tout cas, Arim, une migrante afghane aura à coup sûr la citoyenneté américaine.
Oui, elle s'appelle Rich, d'après le nom de code de l'avion militaire américain dans lequel elle est née il y a quelques jours. C'est à la une du site de CNN. Rich est l'un des trois bébés dont les mères ont accouché pendant ou juste après le vol d'évacuation de Kaboul. CNN cite le pilote qui est visiblement très heureux qu'une petite fille ait vu le jour dans son avion. Peut-être qu'elle sera pilote d'avion plus tard. Ce serait mon rêve, a-t-il plaisanté. En tout cas, le bébé et la mère vont bien, nous rassure CNN.
Et nous prenons la direction du Venezuela où les cas de Covid-19 sont en hausse.
Plus de 1000 nouvelles infections dans les dernières 24 heures, selon le gouvernement. Un chiffre cependant contesté par le président de l'organisation locale, la Federación Médica Venezolana. Selon Daglen León Natera, il faudrait multiplier les données officielles par 10. Dans le journal El Nacional, le chef de cette association de médecins déplore aussi la mort de 530 collègues, tous décédés du Covid-19. Le gouvernement porte une responsabilité, dit-il, car il était incapable d'assurer une protection sanitaire adéquate au personnel soignant. De son côté, l'ONG Médicos Unidos de Venezuela met en garde contre une forte augmentation de nouveaux cas de Covid dans le pays. L'ONG rappelle que seulement 3% de la population vénézuélienne est complètement vaccinée, et ce alors que la rentrée scolaire s'approche, ainsi que la campagne pour les législatives, c'est-à-dire dans Diario 2001.
Et au Pérou, le gouvernement du nouveau président de gauche, Pedro Castillo, passe l'épreuve du feu. Au Parlement, les députés se réunissent ce jeudi pour le vote de confiance.
Oui, c'est le jour J, titre le journal Expresso. Le quotidien estime que le cabinet du Premier ministre de Guido Bellido, un ingénieur sans expérience politique, aura la confiance des députés, même si le résultat sera serré. Le journal El Comercio, de son côté, demande aux députés de ne pas approuver le cabinet de Pedro Castillo. Le quotidien rappelle que le Premier ministre fait objet d'une enquête pour apologie du terrorisme présumé, après des déclarations qu'il aurait faites concernant l'ex-guérilla maoïste du Sentier Lumineux. Et le ministre de l'Intérieur vient de reconnaître avoir fréquenté dans le passé l'une des membres du Sentier Lumineux. Selon nous, ce gouvernement ne mérite pas la confiance des élus, conclut El Comercio.
Merci, Arim Lipold. Au Nicaragua, la répression de l'opposition s'intensifie de jour en jour. À presque 3 mois des élections à laquelle le président Daniel Ortega brille un 4e mandat, vendredi dernier, la police a arrêté une autre personnalité politique de premier plan, l'avocat Roger Reyes. C'est la 34e personnalité de l'opposition à être arrêtée depuis la fin du mois de mai. Une grande partie a dû s'exiler à l'étranger, Sofia Katsenkova.
Pendant plus de 30 ans, Alvaro Leyva Sanchez a défendu les droits de l'homme au Nicaragua. Son association est l'une des plus anciennes du pays. Mais en 2018, tout a basculé. Des jeunes sont sortis protester et ont été violemment réprimés par la police. Le téléphone d'Alvaro n'a cessé de sonner ce jour-là. Depuis, il ne dort plus.
Personnellement, j'ai été victime de menaces, de harcèlement de la part des paramilitaires, uniquement pour avoir défendu les droits humains.
Les manifestations suivantes ont été encore plus violemment réprimées. Plus de 300 personnes ont perdu la vie. Alvaro Leyva Sanchez et son association en ont payé le prix fort, comme la plupart des militants en Nicaragua.
On était réellement en danger. Nos vies étaient en danger. On devait s'exiler car c'était impossible de continuer notre travail. Car le régime de Daniel Ortega est hostile à l'idée que les Nicaraguayens puissent exprimer leur avis et exercer pleinement leurs droits.
Comme beaucoup de ses concitoyens, Alvaro Leyva Sanchez a fui au Costa Rica. C'est le cas de Carmela Rogers, alias Kitty Monterrey. Présidente du principal parti d'opposition de droite, elle a dû précipitamment quitter le pays pour échapper à la prison. Un sort déjà réservé à 34 opposants politiques, dont 7 qui étaient comme elle, candidats à l'élection présidentielle de novembre 2021.
Nous étions le seul parti d'opposition qui allait se présenter à l'élection contre Ortega. Mais les autorités ont annoncé la dissolution de notre parti et ils m'ont retiré ma nationalité nicaraguayenne. Ortega reste seul dans une élection présidentielle contre lui-même. Les quelques partis politiques qui existent encore appartiennent tous à Ortega. Je n'avais pas d'autre choix que de fuir le pays car j'aurais été la prochaine à être arrêtée.
Daniel Ortega, 75 ans, président du Nicaragua, brigue un 4e mandat consécutif. Depuis les manifestations en 2018, il a été accusé de chercher à se débarrasser de toute forme d'opposition, figure politique, militant, journaliste et toute voix critique. À son égard.
Toute forme de protestation est illégale. Si vous manifestez, vous êtes immédiatement arrêté. C'est la nouvelle loi 1055 qui persécute ce qu'elle appelle les traîtres à la patrie. On peut être reconnu coupable et être emprisonné pour incitation à l'ingérence étrangère ou pour avoir applaudi les sanctions contre le Nicaragua. Et la plupart des opposants politiques ont été arrêtés pour avoir enfreint cette loi.
Pour le peu de voix dissidentes qui sont restées dans le pays, le travail est quasiment infaisable et la vie quotidienne très difficile. C'est ce qu'explique José Ignacio López, l'un des rares défenseurs des droits de l'homme à être resté au Nicaragua.
Avant, le ministère vérifiait les documents de notre association une fois par an afin de nous donner un permis de travail pour qu'on puisse collecter des fonds. Maintenant, il faut ramener des documents quasiment tous les mois. Personnellement, en 3 mois, je suis allé déposer ces documents plus de 20 fois, sans aucun retour. Et si jamais on fait quelque chose sans ces documents, cela impliquerait des amendes énormes et des poursuites judiciaires. Donc c'est très compliqué d'être militant dans le pays, car le gouvernement considère que les défenseurs des droits de l'homme s'attaquent à la souveraineté et aux intérêts du pays.
Pour les 3 opposants, ne plus pouvoir exercer leur travail au Nicaragua a été un déchirement, comme le raconte Alvaro Leyva Sanchez.
L'exil, c'est une des pires punitions qu'on puisse infliger à un être humain. J'ai l'espoir que la dictature tombera. Un jour, on retournera dans notre pays et on commencera à fonder la République qui nous représente tous.
Malgré la situation chaotique et les élections qui approchent, les opposants qui n'ont eu d'autre choix que de s'exiler ont une chose en commun, l'espoir un jour de pouvoir revenir au pays et construire une vraie démocratie.
Merci Sofia Katsenkova. C'est l'une des pochettes d'albums les plus mythiques de l'histoire de la musique, celle de Nevermind du groupe Nirvana. On y voit un bébé nu dans une piscine. Et aujourd'hui, ce bébé devenu adulte porte plainte pour pédopornographie. Les explications de Lubna Anaki.
Spencer Eldon avait tout juste 4 mois quand la photo a été prise chez ses parents lors d'une fête. Le bébé, à l'époque, apparaît sous l'eau, nu, nageant vers un billet $1. Une photo devenue culte puisqu'elle a été utilisée par Nirvana pour son album Nevermind. Cette semaine, Spencer Eldon, aujourd'hui âgé de 30 ans, estime qu'il a été utilisé et que le fait que sa photo ait été vue, vendue partout dans le monde, s'apparente à de la pédopornographie puisqu'on peut y voir ses parties génitales. Il porte donc plainte contre 17 personnes. Les descendants de Kurt Cobain, les membres du groupe, plusieurs maisons de disques, les directeurs artistiques, le photographe, et demandent $150 000 de dommages et intérêts à chacune de ces personnes. Spencer Eldon assure que ses parents n'ont jamais signé de document autorisant l'utilisation de cette photo. Il estime, je cite, que son identité est à jamais liée à l'exploitation sexuelle qu'il a vécue. Mais il y a quelques années, il a lui-même reconnu que cette photo lui avait ouvert des portes au point où pour les 25 ans de l'album de Nirvana, il avait reproduit la même photo, mais cette fois en tant qu'adulte. Lubna Anaki, New York, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer présenté par Benoît Ferrand. Même cause, mêmes effets après celui de la Martinique. Le préfet de la Guadeloupe a annoncé hier la prolongation du confinement jusqu'au 19 septembre prochain.
Oui, Stanislas Cazel, Martinique, et Alexandre Rochat, Guadeloupe, même combat, sans surprise, l'épidémie restant à un stade préoccupant. Lors de cette même conférence de presse, hier, la rectrice de l'Académie de la Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler, a donné quelques précisions aussi sur la rentrée des classes, dont le report a été annoncé par le gouvernement. À compter du 13 septembre, la rentrée se fera, mais majoritairement en distanciel, comme on dit.
L'objectif est de limiter les flux et de limiter les brassages. Donc nous allons être, en tout cas, dans un premier temps, et à partir du 13 septembre, dans un dispositif plutôt en distanciel, mais avec possibilité d'accueillir les enfants pour des moments de rencontres pédagogiques, mais en nombre évidemment limité. Donc le protocole sera renforcé dans un premier temps sur 2 semaines et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et au fur et à mesure, nous verrons pour pouvoir augmenter le temps de présentiel pour les enfants puisque c'est évidemment l'objectif que l'on poursuit également puisque c'est évidemment plus porteur en termes éducatifs.
Il reste des sujets à régler comme le transport scolaire, a également souligné la rectrice de l'Académie. On reste en Guadeloupe avec la municipalité de Sainte-Anne qui a décidé de frapper fort face à l'indiscipline de certains. Elle a interdit purement et simplement l'accès aux plages de la commune. Une décision diversement commentée par ceux qui voulaient aller bronzer et qui ont donc été obligés de rebrousser chemin. Écoutez ces quelques réactions recueillies par nos confrères de la Première Guadeloupe.
Ok, ils ont fermé Sainte-Anne, mais d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'autres plages qui sont ouvertes. Donc en fait, les gens vont aller s'affluer dans d'autres plages, quoi.
L'interdiction, non, je la comprends pas. Après, je comprends les restrictions qui ont été mises en place. Pour être là depuis 15 jours, je trouve que les gens, ils respectent énormément.
C'est frustrant pour la plupart des gens. Ça devient absurde parce que, bon, aller se baigner parce que tu as besoin de nager pour te détendre ou parce que tu prépares un examen de natation ou peu importe, je vois pas en quoi ça dérange. Ça me saoule.
Les gens ici, ils obéissent pas. On dirait que ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Voilà. Comme on ne voit pas le virus, ils n'y croient pas. Donc il faut se dire qu'on soit pour ou contre la vaccination, mais il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai fait santé publique pendant des années en Guadeloupe. Eh bien, les parents, heureusement qu'ils ont fait vacciner leurs enfants à cette époque, parce qu'il y a beaucoup actuellement qui auraient eu la polio, la tuberculose et qui seraient morts, tout ça, etc.
Bon après-midi, Mayel. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. C'est la fin de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast ou bien sur notre site internet rfi.fr. Il va être bientôt 13h30 en temps universel et 15h30 à Paris. Le prochain point sur l'actualité, c'est dans une demi-heure.
Ça va, ça va, ça va.